Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, mes bien chers amis, c'est aujourd'hui le quatrième dimanche après l'Épiphanie. L'Église propose à notre méditation cet évangile très connu de la tempête apaisée, qui représente évidemment pas simplement une tempête physique pour les apôtres, mais également une tempête morale, une tempête doctrinale, contre notre âme et contre l'Église catholique. Pour expliquer cet évangile, je voudrais vous raconter une petite histoire et ensuite appliquer l'histoire. Je pense que ce sera plus facile pour vous de comprendre ce que j'essaie de vous dire. Imaginez un papa qui a offert à son enfant de 10 ans, qu'on appellera Jeannot dans mon histoire, qui a offert à son petit Jeannot, pour son anniversaire, une boîte de mécano, bon, pour construire des choses diverses et variées, avec des bouts de ferraille, avec des écrous et des boulons. Alors l'enfant est tout content. Et le papa explique d'abord à son enfant en disant: attention, c'est un petit peu compliqué, alors il va falloir que tu vas avoir besoin d'aide, viens me voir. Si tu n'arrives pas, non, je suis assez grand, pas de problème, je vais y arriver. Je te préviens, c'est un peu compliqué, lui dit son papa, et tu risques d'avoir des difficultés à faire cela. Alors viens me voir si ça va pas, si tu n'arrives pas. Non, ça va, je suis assez grand, je vais comprendre et le faire par moi-même tout seul. Donc l'enfant s'éloigne, va dans sa chambre et commence à sortir tous les objets de la boîte et commence à essayer de construire une première chose avec ses plaques de fer, avec ses barres de fer, ses boulons et ses vis. Et le papa, qui est dans son bureau, il a laissé la porte ouverte et puis il entend son fils qui est pas content parce qu'il n'arrive pas effectivement à faire la chose, à construire ce qu'il veut construire parce que c'est trop compliqué. Il entend s'énerver, j'arrive pas. Papa ne doit pas bouger dans ce cas-là, il doit attendre. L'enfant finalement descend, entre dans le bureau de son père, et dit à son père: je n'y arrive pas. Le papa ne doit pas bouger, il attend. L'enfant repart de son bureau, rentre dans sa chambre, continue son travail, continue de râler, et au bout de 10 minutes, revient dans le bureau de son papa. Il a dit: je n'y arrive pas. S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez m'aider? Alors là, le petit mot magique a été prononcé, le papa se lève et explique à l'enfant ce qu'il faut faire et comment construire le bâtiment qu'il veut construire avec son mécano, l'objet qu'il veut construire avec son mécano. Mais l'enfant n'écoute pas très bien son papa. Alors le papa lui fait la marque: Jeannot, il faut bien écouter ce que je te dis, sinon tu ne vas pas arriver à le faire. Non, ça va, j'ai compris, merci. Papa retourne dans son bureau et au bout de quelques minutes, il entend l'enfant qui râle de nouveau dans sa chambre: j'arrive pas. Alors l'enfant descend, au bout de quelques minutes: j'y arrive pas, venez m'aider. Le papa ne doit pas aider son papa, son fils à ce moment-là. Le fils revient de nouveau au bout de quelques minutes: papa, s'il vous plaît, venez m'aider. Le papa ne doit pas aller aider son fils dans ces conditions, il doit attendre. Il renvoie son fils dans sa chambre et au bout de 10 minutes, le fils revient, cette fois-ci avec le verbe un peu moins haut, et il dit à son papa: papa, s'il vous plaît, venez m'aider. Tout à l'heure, vous m'avez donné des explications et j'ai mal écouté parce que j'étais trop sûr de moi et je pensais être capable de le faire par moi-même. Maintenant, je me rends compte que je peux pas le faire moi-même. Alors, s'il vous plaît, venez m'expliquer de nouveau et je vous promets que cette fois-ci, je vais bien écouter. Pardonnez-moi. Alors là, le papa peut se lever. Il est temps. Il explique à son enfant qui, cette fois-ci, va bien écouter pour construire sa pièce. Eh bien, voyez-vous, cette histoire qui semble un peu ridicule n'est pas si ridicule que cela, parce que je pense qu'elle va vous aider à comprendre cet évangile de la tempête apaisée que vous connaissez bien. Jésus qui monte dans une barque avec ses disciples. Et voici qu'il s'éleva sur la mer une si grande tempête que la barque était couverte par les flots et lui dormait. Et ses disciples s'approchèrent de lui et l'éveillèrent en disant « Seigneur, sauvez-nous, nous périssons !» Et Jésus leur dit « Pourquoi vous effrayez-vous, hommes de peu de foi ?» Alors se levant, il commanda au vent et à la mer et il se fit un grand calme. C'est peut-être un peu la même chose qui s'est passée avec les disciples. N'oublions pas qu'on est encore au début de la vie publique de notre Seigneur. Les disciples n'ont pas encore tout compris, loin de là. Nous sommes longtemps, plusieurs années peut-être avant la fête de la Pentecôte et l'arrivée du Saint-Esprit sur les apôtres. Les apôtres sont encore trop humains. Donc ils montent avec notre Seigneur Jésus-Christ, ils voient notre Seigneur Jésus-Christ qui dort au fond de la barque, pas de problème. Ils se disent « Hop, on est des bons marins, nous sommes des pêcheurs de génération en génération, on a une bonne expérience, pas de problème. » Et puis la tempête arrive. Alors au début, les apôtres se disent « Oh, c'est une tempête, mais enfin on en a vu d'autres, on va y arriver tout seul, on va pas réveiller notre Seigneur Jésus-Christ pour cela. » Et puis la tempête se renforce, les vagues se creusent, le vent devient de plus en plus violent. Alors les apôtres commencent un peu à paniquer. Au début, peut-être qu'ils se sont dit, non, on ne va pas réveiller notre Seigneur, d'abord, on est suffisamment capable de s'occuper de cette barque par nous-mêmes, on ne va pas réveiller notre Seigneur. Et les pères de l'Église font remarquer une chose très belle. Ils font remarquer que notre Seigneur Jésus-Christ, qui dort, ou qui fait seulement dormir, parce que notre Seigneur, en tant que Dieu, ne dort jamais, il dort en tant qu'homme, mais pas en tant que Dieu. En tant que Dieu, il sait tout ce qui se passe, il connaît le présent, le futur, il connaît tout. Notre Seigneur Jésus-Christ, qui peut-être fait mine de dormir au fond de la barque, il demande qu'une seule chose, il demande à être réveillé par ses apôtres. Les apôtres qui, au début, peut-être, avaient trop confiance en leur propre force pour manœuvrer la barque en tempête, pendant le temps de la tempête, eh bien, ces apôtres qui, au début, comptent trop sur eux-mêmes, étaient peut-être tombés un peu dans l'orgueil. Alors, notre Seigneur Jésus-Christ ne bouge pas. Il attend d'être réveillé. Et pourquoi attend-il d'être réveillé? Pourquoi veut-il être réveillé par les disciples, par les apôtres? Parce que, à ce moment-là, les apôtres se sont rendus compte qu'ils ne peuvent pas y arriver par eux-mêmes, que la barque risque de couler. Parce que malgré leur expérience, ils ont peur de la tempête. Alors ils réveillent notre Seigneur Jésus-Christ, et ça c'est le symbole de la vertu d'humilité. Et lorsque notre Seigneur Jésus-Christ, comme le papa de la petite histoire que je viens de vous raconter en début de ce sermon, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ se rend compte que ses disciples, que ses apôtres ont compris qu'ils ne peuvent pas s'en tirer par eux-mêmes tout seuls et qu'ils ont besoin du Maître, lorsque notre Seigneur Jésus-Christ se rend compte de cela, que l'orgueil a été remplacé par l'humilité, alors il peut se lever et là commander au vent et à la mer pour faire un grand calme. Ceci nous montre l'importance de la vertu d'humilité. Et c'est la même chose dans les différentes images qui sont derrière cet évangile. Il y a deux essentiellement qu'on voit chez les pères. La première image, c'est que cette tempête, ce bateau qui traverse la mer agitée représente l'Église, évidemment. C'est la barque de Saint-Pierre. Et dans la barque de Saint-Pierre, le pape est là, les apôtres sont là, c'est-à-dire les évêques sont là, les prêtres sont là. Et peut-être, parfois, ils peuvent avoir la tentation de trop compter sur eux-mêmes. On le voit très bien dans ce qui s'est passé. Depuis surtout la mort du pape Pie XII en 1958, ils ont voulu tout changer. Alors évidemment, notre Seigneur Jésus-Christ ne se dérange même pas pour faire un miracle. Parce que le rôle du pape, c'est de garder le dépôt de la foi et pas de tout changer. À partir du moment où il utilise son pouvoir pour détruire la foi de l'Église, pour changer le dépôt de la foi, mais il est évident qu'il ne peut plus être pape dans un cas comme ça. Encore une fois, on voit très bien, l'Église va progresser, l'Église va pouvoir accomplir son rôle messianique, son rôle d'apostolat, son rôle de conversion, dans la mesure où les membres de l'Église enseignante, c'est-à-dire les évêques surtout, puis les prêtres sous les évêques, dans la mesure où ces évêques gardent le dépôt de la foi et comptent sur notre Seigneur Jésus-Christ. Mais s'ils comptent beaucoup trop sur leur propre force, la barque risque de couler, parce que la barque peut continuer sa flottation, va pouvoir flotter normalement malgré les vents, malgré les vagues, malgré la tempête, dans la mesure où le pape et les évêques sont soumis au grand capitaine qui est notre Seigneur Jésus-Christ. Mais s'ils comptent sur leur propre force, par orgueil, à ce moment-là tout s'écroule. Et on peut dire la même chose, mes bien chers frères, avec l'autre image qui est aussi expliquée par les pères, à savoir que cette barque qui traverse la mer en furie représente aussi notre âme, c'est pas simplement l'Église, c'est aussi notre âme. Nous aussi, on a une petite barque, on est dans une petite barque et il faut traverser la mer de ce monde pour aller vers le port du salut, à savoir le paradis. Et la tempête fait rage, ce sont toutes les tentations du monde moderne. Les courants sont forts, il y a des récifs qui sont cachés sous les eaux, il y a des vagues qui se creusent de plus en plus, ça représente toutes les tentations, toutes les désolations, toutes les difficultés de toutes sortes que nous rencontrons dans le monde moderne. Et peut-être que nous aussi, mes bien chers frères, nous avons la tentation de vouloir nous en sortir par nous-mêmes, tout seuls. On est en pleine désolation, on est en plein découragement, mais on ne veut pas réveiller notre Seigneur Jésus-Christ, peut-être par orgueil. Alors on se dit, non, pas de problème, je vais le faire par moi-même, comme un grand, je n'ai pas besoin de notre Seigneur Jésus-Christ. Eh bien, notre Seigneur Jésus-Christ, dans ce cas-là, continue de dormir. Et il faut pratiquer la vertu d'humilité, reconnaître, là, je ne peux plus y arriver tout seul. Il faut s'approcher de notre Seigneur Jésus-Christ, réveiller notre Seigneur Jésus-Christ et lui dire, Seigneur, sauvez-nous, nous périssons. À ce moment-là, notre Seigneur Jésus-Christ, qui voit la vertu d'humilité dans le cœur de ses fidèles, à ce moment-là, va se lever, va donner des ordres au vent et à la mer pour qu'il se fasse un grand calme. Et notre Seigneur Jésus-Christ va se lever pour empêcher la désolation, pour empêcher les persécutions, pour empêcher la guerre spirituelle contre les âmes, de vaincre notre âme, de détruire notre âme. L'important, c'est que notre Seigneur Jésus-Christ soit dans la barque. Et je pense que c'est exactement ce que disent les pères qui s'applique à chacun d'entre nous. Notre Seigneur Jésus-Christ n'attend qu'une seule chose, c'est qu'on le réveille. Parce que quand on réveille notre Seigneur Jésus-Christ, ça veut dire qu'on a compris qu'on ne peut rien faire par nous-mêmes et qu'on a besoin de sa divinité, qu'on a besoin de sa force. C'est le malade qui vient voir notre Seigneur Jésus-Christ en lui disant, voilà, par moi-même, je ne peux rien faire. J'ai la foi, mais augmentez ma foi, Seigneur. Je crois, mais augmentez ma foi. J'espère en vous, mais augmentez mon espérance. Je vous aime, mais augmentez la vertu de charité en moi. Alors, dans la mesure où, justement, nous avons suffisamment d'humilité pour aller réveiller notre Seigneur Jésus-Christ, à ce moment-là, notre Seigneur Jésus-Christ va se lever et remettre la plaie de la paix dans notre âme. Je pense que si tant d'âmes ont perdu la foi ces dernières années, surtout depuis la mort du pape Pie XII, encore une fois en 1958, c'est parce que ces âmes comptaient beaucoup trop sur elles-mêmes. Elles se séparent. Elles se séparent de l'enseignement de l'Église. À partir du moment où elles se séparent de l'enseignement de l'Église, eh bien, ces âmes vont se couper de l'aide spirituelle que le bon Dieu peut leur donner. Je vais vous donner un petit exemple qui m'a beaucoup frappé. Cette semaine dernière, je suis allé passer quelques jours pour voir ma vieille maman qui a 88 ans, qui est à Gap, dans les Hautes-Alpes. Et elle vit dans un appartement d'une maison de retraite pour prêtres, pour vieux prêtres. Il y a là une quinzaine de prêtres qui sont soit en fin de vie, soit vraiment assez fatigués, qui ont tous plus de 70 ans. Et je suis allé faire un tour dans la bibliothèque de ces prêtres. Bibliothèque générale de la maison religieuse. Et pas mal de livres. Pratiquement tous les livres étaient modernistes. Tous. Il y avait là les livres de Lubach, il y avait là les livres de Hans Küng, il y avait là les livres de Karl Rahner, de Schilbeck, de tous les ennemis de l'Église. De toutes ces personnes qui ont détruit l'Église de l'intérieur. Il est évident que si ces prêtres, qui sont tous modernistes, qui ont tous pratiquement perdu la foi, ne lisent que des choses comme ça, il est évident que dans ce cas-là, notre Seigneur Jésus-Christ va continuer de dormir tranquillement dans la barque. Mais c'est pareil pour nous, mes bien chers frères. Dans la barque de mon âme, souvent, il y a bien des soubresauts, bien des tempêtes. Peut-être que je suis en grande désolation. Alors que dois-je faire? Bien sûr, je peux essayer de m'en tirer par moi-même, mais ça ne va pas aller très loin comme ça. Il faut que j'ai suffisamment d'humilité pour m'approcher de notre Seigneur Jésus-Christ et lui dire « Seigneur, sauvez-moi, car je péris. J'ai besoin de vous, je n'arrive pas à m'en tirer tout seul. Je suis en désolation, je suis peut-être en désespoir. J'ai besoin de vous, Seigneur. » Et notre Seigneur Jésus-Christ, comme disent les pères, veut être réveillé et attend d'être réveillé. Et quand on se décide enfin à réveiller notre Seigneur Jésus-Christ qui dort au fond de la barque, ce n'est pas un acte d'orgueil, c'est au contraire un acte d'humilité. C'est-à-dire qu'on dit à notre Seigneur Jésus-Christ, je ne suis pas capable de faire le travail par moi-même, Seigneur, je péris, venez à mon aide. Et notre Seigneur Jésus-Christ va se réveiller et à ce moment-là va commander, va se lever, va commander au vent et à la mer pour qu'il se fasse un grand calme, y compris dans mon âme. Dans bien des cas, si nous perdons peut-être la foi, si nous manquons de foi, c'est parce que nous manquons de confiance en notre Seigneur Jésus-Christ. Nous essayons de nous en tirer sans passer par lui. Donc il faut demander cette grande vertu d'humilité. Alors, comme cette tempête représente pour nos âmes tout simplement la désolation, quand tout va mal, quand le désespoir est à la porte, ce qui arrive de plus en plus souvent pour nos fidèles, quand le découragement est aussi à la porte avec le désespoir, encore une fois, il faut aller réveiller notre Seigneur Jésus-Christ. Alors, essayons en quelques minutes, puisque j'ai pas beaucoup de temps dans un sermon, de voir quel est le premier signe qui va m'indiquer qu'il faut que j'aille réveiller notre Seigneur. Mais je pense que ce premier signe qui est en fait la porte ouverte à l'orgueil, ce premier signe, c'est la tristesse. Cette espèce de tristesse spirituelle qui va entraîner, d'une part, l'acédie, c'est-à-dire la paresse spirituelle, et deuxièmement, si on ne fait pas attention, cette tristesse spirituelle peut entraîner un aveuglement spirituel. Une paresse spirituelle et un aveuglement spirituel. Et cette tristesse, si elle n'est pas enrayée très vite, cette tristesse spirituelle, cette espèce de brouillard, si vous voulez, qui va tomber sur mon âme, va provoquer chez nous, l'arrêt de la prière. La tristesse va entraîner la cédille, va entraîner l'aveuglement spirituel. Du coup, on se décourage complètement, on arrête de prier. Alors, si on arrête de prier, évidemment, le bon Dieu, il continue de dormir dans notre âme. Et donc, dès qu'on voit ce premier signe de la tristesse, mes bien chers frères, que faut-il faire? Il faut aller réveiller notre Seigneur Jésus-Christ. Réveiller notre Seigneur Jésus-Christ pour le supplier, justement, de venir nous galvaniser, de venir nous donner un petit peu de force spirituelle pour que nous puissions rouvrir les yeux de nos âmes et nous remettre à notre travail spirituel, à ce combat spirituel terrible que nous devons mener pour aller au ciel. Cette tristesse entraîne donc toujours cette confusion, cette obscurité de l'âme, et va nous faire aider et tendre aussi à aimer de plus en plus les choses du monde, les choses laides. Voilà pourquoi, mes bien chers frères, dès que je vois cette tristesse poindre le bout de son nez dans mon âme, qu'est-ce que je dois faire? Tout de suite aller réveiller notre Seigneur. Réveiller notre Seigneur. Vous pouvez, par la même occasion, aussi réveiller Notre-Dame, parce que là où est notre Seigneur, il y a Notre-Dame qui est là. Donc, si notre Seigneur Jésus-Christ dort au fond de la barque, vous pouvez être sûr qu'il y a Notre-Dame qui est à côté, hein. Donc, vous pouvez aussi réveiller Notre-Dame. Ou peut-être d'abord réveiller Notre-Dame en lui disant, Madame, ma mère, sauvez-moi, car je péris. Notre Seigneur, je m'arrive à vous dire, il faut réveiller mon fils. C'est lui qui est Dieu. Moi, je suis que sa mère. Mais comme le rôle de la Très Sainte Vierge Marie est d'amener au Fils, la Très Sainte Vierge Marie va vous conduire pour vous aider à réveiller son Fils. Et notre Seigneur Jésus-Christ va remettre la paix dans nos âmes. Voilà, bien chers frères, ce qu'il nous faut demander à Très Sainte Vierge Marie en ce moment. Demandez cette grâce de savoir lutter contre la tristesse pour aller réveiller notre Seigneur Jésus-Christ, s'approcher de notre Seigneur Jésus-Christ, le réveiller en disant « Seigneur, sauvez-nous, nous périssons ». Alors demandons à notre Sainte Vierge Marie de nous aider, mes bien chers frères, à ne jamais, jamais nous décourager, car si notre Seigneur Jésus-Christ dort dans notre âme, n'oublions pas qu'il attend que j'aille le réveiller, et si je vais le réveiller, notre Seigneur Jésus-Christ se lèvera pour remettre la paix dans mon âme, car il a promis que nous ne serons jamais, jamais tentés au-delà de nos forces. Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.